la suite barrière à la création de nouveaux GTLD dans les régions en développement. Premièrement, je vous expliquerai comment le programme va se dérouler. Ensuite, un aperçu rapide du document qui vient d'être publié. Donc, premièrement, je vais vous donner cet aperçu. Ensuite, le panel ici assis sera modéré par mon coprésident Adam Lubovitz. Et ensuite, il présentera les panélistes. Puis, Rafik Demakou, qui est l'officier de liaison avec le groupe GNSO, donnera la conclusion. Donc, quelque part au milieu, nous espérons que Katine Touraille, un membre du panel, parviendra à quitter son atelier et nous en dire davantage sur son opinion sur ce point-là, dans la mesure où il est à l'origine de cette question et il l'a fait naître parmi le Conseil. Donc, nous espérons pouvoir compter sur sa présence un peu plus tard et il interrompra notre séance. Commençons par un aperçu. La première partie a été initiée par la lettre du GAC au Conseil et ils disent que une différence de tarifs dans la structure crée des limites parce qu'elle transforme le marché en faveur de candidatures du monde développé et uniquement provenant de pays ayant les ressources financières supplémentaires. Donc voici comment ce projet est perçu par les pays en développement. C'est la question que nous voulions poser. Et au Nairobi, le Conseil a souhaité montrer son soutien aux candidatures des nouveaux GTLD. Et cette résolution émise par le Conseil nous a permis de créer ce groupe de travail. Le groupe de travail a été monté par GNSO et AILAC. Donc c'est un effort conjoint. Nous avons des efforts qui sont menés parmi ces deux communautés croisées. Il y a 5 éléments sur le groupe de travail. Donc nous devions identifier des critères appropriés pour que les candidats puissent faire partie ou bénéficier de ce soutien. Donc qui est la cible de ce programme de soutien ? Ensuite, identifier la façon dont les tarifs pouvaient être réduits ou subventionnés afin d'arranger les candidats qualifiés. C'est-à-dire que nous devons tenter de garder nos propositions sur le principe de la récupération des coûts, c'est-à-dire l'une de nos principales limites pour le groupe. Ensuite, identifier les bons moyens de soutenir ces pays, donc qu'il s'agisse d'assistance technique, organisationnelle, financière ou d'une réduction des tarifs ainsi que les ajustements aux différents délais. Ensuite, identifier les fournisseurs potentiels et des mécanismes appropriés afin de pouvoir fournir le soutien nécessaire. Et enfin, identifier des conditions et les mécanismes nécessaires pour minimiser le risque d'un accès inapproprié au soutien. Nous avons donc divisé le groupe en deux groupes de travail. Et bien qu'il s'agisse d'un groupe unique, nous utilisons une seule liste et les conversations s'établissent entre ces deux groupes. Et la première équipe de travail doit identifier la façon dont les coûts nets chargés aux candidats qui remplissent les bons critères peuvent être réduits. Ceci sur la base du principe de récupération des coûts. Donc nous devons analyser le tarif et celui-ci est pour l'instant de 185 000 dollars. Et si l'on divise ce coût en 3 différentes parties, c'est-à-dire les coûts de développement du programme, Les évaluations de la candidature fixe et variable, environ 100 000 dollars, le précédent 26 000 dollars, et les coûts de prévision des risques, environ 60 000 dollars. Donc, évidemment, c'est un aperçu instantané, les propositions ne sont pas encore définitives, mais selon la vision du groupe, deux propositions semblent atteindre le consensus. Premièrement, le fait d'abandonner le coût du développement de programmes pour certains groupes qui bénéficient de l'assistance financière, c'est-à-dire pour les pays en développement. Parce que ce n'est pas forcément approprié qu'ils paient pour ces coûts de développement. Également, les gens qui ont lu le guide de candidature se sont sûrement aperçus qu'à certaines étapes, si l'on sort du processus, il peut y avoir des remboursements. Donc, pour ceux qui viennent d'un pays en développement, le soutien pourrait être payé au fur et à mesure des étapes plutôt que d'être payé à l'avance et d'être remboursé par la suite. Évidemment, ce sont encore des sujets en discussion. Donc, également les processus de vente aux enchères. Nous savons que les ventes aux enchères n'auront pas lieu avant la fin du processus, mais afin de rendre ces candidatures durables, peut-être qu'une partie des ventes aux enchères pourra être utilisée pour l'aide aux pays en développement et leurs candidatures, ou pour leur registre pour passer la première année. Également, réduire les coûts de registre qui sont dus à l'ICANN et reconsidérer les coûts de prévision des risques par candidat et réduire les coûts fixes et variables d'environ 100 000 dollars par candidature. La deuxième étape, considérer les organisations qui pouvaient bénéficier de ce soutien et quel type de soutien. Donc après une longue discussion, nous avons décidé de limiter le nombre de candidats à ceux qui appliquaient, qui posaient des candidatures linguistiques ou culturelles, c'est-à-dire des candidatures uniquement ethniques et des communautés ethniques et linguistiques. Également, le soutien aux ONG et aux organisations de la société civile serait reporté à une prochaine étape parce que c'est moins défini et donc il y a des groupes qui ont besoin d'un soutien plus immédiat. Également, accorder la préférence à des candidats qui se trouvent géographiquement dans des marchés des pays en développement. Donc, si des groupes sont purement gouvernementaux ou interétatiques, eh bien, ces groupes-là ne sont pas considérés comme éligibles et on examine également le modèle d'affaires. Si celui-ci n'est pas faisable, n'est pas durable, eh bien, la candidature est rejetée. En ce qui concerne l'assistance, en quoi consiste-t-elle? Trois recommandations. Premièrement, nous avons regardé les aspects logistiques de faire savoir et celui du processus d'application, donc, c'est-à-dire la traduction des différents documents. Aide technique et logistique pour le processus de candidature. Je suis sûre que ceux d'entre vous qui ont lu le guide de candidature ont pu constater que certaines parties sont très complexes. Et pour quelqu'un qui n'est pas un véritable membre de ICANN pour les régions en développement, c'est probablement bien plus difficile que ce que l'on imagine. Donc, nos efforts pour le faire savoir et conscientisé. Eh bien oui, ICANN lui-même et le programme GTLD va effectuer des efforts d'atteinte de certaines de ces régions, également considérer les tarifs et les subventions. La chose suivante, c'est le soutien technique pour les candidats qui mettent une candidature par rapport au GTLD, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'éducation, de conseils sur la résolution des problèmes, etc. La première année, par exemple, il n'est pas forcément nécessaire que tous les besoins techniques soient satisfaits, mais s'il s'agit d'une toute petite GTLD, il y a des processus qui sont au départ plus lents et un programme peut être conçu et nous pouvons l'accepter. Ensuite, nous avons considéré les différents groupes qui pourraient œuvrer ensemble. Enfin, le soutien à la construction dans les différentes langues et les différents IDN pour les nouveaux GTLD. C'est l'un des premiers points sur lesquels l'assistance va se concentrer. Donc, par exemple, considérer les réductions de prix afin de motiver, permettre la construction dans de multiples sortes de scripts et s'assurer que le soutien atteigne bien les gens. Donc, il y a une responsabilité d'autofinancement parce que nous avons discuté du pourcentage qui allait être exigé du candidat. Donc, évidemment, il ne peut pas s'agir de 100%. Il faut qu'il s'agisse de moins de 100%. Il faut que certaines notions soient claires, qu'il faut que le candidat ait une certaine capacité financière, évidemment. Il n'y a pas de soutien indéfini, mais c'est un programme où le soutien sera disponible uniquement au début. Il se réduira petit à petit. Ensuite, il y a besoin de faire preuve d'énormément de transparence afin de s'assurer que les candidats aient l'information et le processus de décision de l'éligibilité des candidats est fait de façon la plus transparente possible. Et une petite explication qui est nécessaire, c'est le nombre des candidatures. Celui-ci n'est pas limité, mais ce que nous voulons dire, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux organisations non lucratives. Et ça peut également s'adresser aux entreprises de pays en développement. Il suffit simplement que ça réponde aux critères, mais évidemment, ce n'est pas uniquement pour les organisations non lucratives. Il faut également un soutien. On nous a demandé s'il fallait une forme de soutien de la part du gouvernement, donc nous avons dit que ce n'était pas le cas, mais si effectivement il y a un certain soutien de la part du gouvernement, il doit être limité, très limité. Et ensuite, il y a des méthodes de remboursement dans les cas où l'entreprise est couronnée de succès. Et il peut s'agir de financer l'aide aux autres, mais il faut toujours que ça fonctionne dans le sens du succès. Donc, un message est envoyé à différents fournisseurs de registres afin de leur demander de quel type d'aide ils peuvent offrir ou pas, et on leur demande s'ils sont prêts à offrir certains services pour aider un candidat peu privilégié. Et donc, quel type d'aide cette organisation peut apporter, c'est-à-dire d'aide financière, et leur demander s'ils connaissent éventuellement d'autres fournisseurs de services qui pourraient aider ces candidats en situation difficile. Donc, à l'étape suivante, nous obtenons des commentaires. Il y a eu une section hier, aujourd'hui, avec l'Afro-ICANN. Je pense qu'ils ont discuté justement de d'encourager, nous avons essayé de les encourager à nous donner des remarques, des commentaires, et nous avons poursuivi la discussion dans le groupe de travail conjoint, et ceci sur la base de la contribution que nous aurons jusqu'au 10 juillet, et ensuite nous aurons un rapport que nous enverrons à nos organisations, les GNSO et l'ALAC. Et à cette étape-là, ils devront décider de ce qu'ils souhaitent en faire. Mais c'est à eux qu'incombe cette décision finale. Donc je passe à présent la parole à Evan, qui ne va pas encore poser les questions, mais il va modérer le débat. Et si Katine nous rejoint au milieu de la session, eh bien, je devrais interrompre Evan. Merci.
Hi there. Thanks, Avery.
Bonjour, merci Avery. Alors, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter notre panel. Il s'agit de représentants de nombreuses personnes qui ont fait partie de nos groupes. Nous avons des contributions de la diversité des comités ad large et GNSO. Et ils parleront entre les deux différentes équipes de travail. Donc premièrement, Tijami Benjema, le premier orateur.
Merci, Evan. Avri a tout dit, donc je ne sais pas ce que je vais ajouter. Elle a tout expliqué. Moi, je fais partie du groupe de travail de l'équipe numéro 1 qui s'occupe du soutien financier. Quel type de soutien financier qu'on peut apporter à ces demandeurs de GTLD. Et au sein de l'équipe, il y a eu un consensus sur le fait qu'il faut dispenser les candidats éligibles au soutien des coûts de développement du programme des nouveaux GTLD qui s'élèvent à 26 000 dollars. Ceci parce que ces coûts-là ne font pas partie des coûts d'évaluation de la demande, donc ils ne sont pas intrinsèques à la demande et aux candidats, mais qui sont des coûts généraux qui ont été divisés par tous les applicants du prochain round. Donc, pour pouvoir trouver un moyen de réduire les coûts, ben, l'équipe, tout le working group a été d'accord par consensus que cette partie-là, on peut dispenser les candidats qui sont éligibles au soutien de ce coût-là. Un autre moyen de baisser les coûts, alors c'est de baisser les frais d'enregistrement dus à ECAN, et ce, en supprimant les redevances de registre fixe de 25 000 $ par année civile. Et le bénéficiaire alors ne payera que les frais de transaction qui sont de 25 cents par nom de domaine enregistré ou renouvelé. Parce qu'une redevance annuelle de 25 000 $ compromettrait la viabilité du TLD, surtout s'il représente une communauté petite, une petite communauté et sans moyens financiers. De toute façon, à l'heure actuelle, beaucoup de GTLD ne payent pas actuellement les coûts fixes de 25 000 $ et payent moins que 25 cents par transaction. Donc l'équipe a pensé qu'un moyen de réduire les coûts pour ces demandeurs de GTLD était de baisser ces frais-là.
OK. Next speaking is Lane Pruce.
Le prochain intervenante, c'est Lane Pruce. Une autre proposition que le groupe de travail semble être d'accord et que nous devrions échelonner les frais de candidature. Aujourd'hui, lorsque vous avez votre demande, vous payez 5 000 $ au départ. Et lorsque vous passez par une vérification administrative, vous payez les 180 000 $ restants. Et ceci va, en principe, vous mener à travers l'ensemble du processus. Si, depuis l'idée de la récupération des coûts, nous avons pensé que nous pourrions peut-être, nos candidats pourraient payer un peu à chaque fois à travers le processus, donc avoir des échelonnements. Ceci aiderait les candidats moins défavorisés et qui ne devraient pas donc financer tout le montant dès le départ. Et donc 5 000 au départ, 50 000 lors de la soumission, 50 000 après l'évaluation initiale, et puis 65 000 lorsqu'il y a l'approbation de la délégation. Ces chiffres peuvent changer si les candidats ne sont pas requis de payer l'ensemble des frais. Et l'idée est qu'un candidat passe par l'évaluation et voit s'ils vont avoir donc une chaîne de contention et ne peuvent pas, par exemple, payer les 180 000 dollars dès le départ, ou ils pourraient, par exemple, s'il y a un litige, en attendant, pouvoir donc réunir le solde du montant. La deuxième proposition que je vais présenter, mais que nous n'avons pas, sur laquelle nous n'avons pas pu être tous d'accord, que les recettes, parce que les recettes des enchères ne sont pas connues. Nous ne savons pas combien de recettes seront là. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas donc vraiment dépendre de ceci pour soutenir nos candidats. Mais l'idée est que s'il y a c'est des litiges et que les partis ne peuvent pas régler le litige entre eux, ils iront aux enchères et les recettes seront perçues par l'ICANN. Et dans le guide de candidature, il est écrit que les recettes des enchères seront réservées et notées de côté jusqu'à ce que l'utilisation des recettes soit déterminée. Il est prévu que les coûts de ce nouveau programme sera compensé par les frais, par les donc les fonds qui proviendront d'un dernier recours pourraient être un mécanisme de tension afin que les enchères puisse résulter en un financement supplémentaire. Les fonds pourront être séparés, imputés séparément et utilisés d'une manière qui soutienne directement la mission de l'ICANN et ses valeurs principales. Donc l'idée est, et ce n'est pas original, mais ça existe déjà dans le guide de candidature, c'est une source de financement, donc, que nous aimerions utiliser pour ces candidats. Et nous pourrions l'utiliser si nous avons un établissement de fonds, de financement, que les candidats pourraient utiliser pour emprunter. Et s'il y a donc des recettes des enchères, revenir et renflouer ce fonds, ou peut-être au cours d'un deuxième tour de nouveau GLD, que les recettes des enchères puissent être utilisées pour réduire les frais. Alors, l'intervenant prochain, suivant, hors micro. Bonsoir à tous, c'est Tony Harris. C'est le dernier point de la diapo à l'écran qui se réfère à la discussion que nous avons eue sur les coûts, les éléments des coûts, de coûts des frais de candidature. Nous avons participé à comment démarrer cette discussion. Avant de démarrer cette discussion, nous avons vu que les frais de candidature étaient expliqués comme étant une récupération des coûts, mais toutefois, nous avons essayé d'examiner les implications des éléments différents des coûts de candidature. Et pour commencer, si nous examinons le coût de risque et d'éventualité par candidat dans le document que l'ICANN a soumis, et qu'il est quantifié donc à la hauteur de 60 000 dollars, nous sommes désolés de dire que dans le document qui explique que les coûts, que s'il y avait 5 000 par exemple candidatures multipliées par 60 000 dollars, ceci voudrait dire qu'il y aurait un fonds un revenu d'éventualité de 30 millions de dollars. pour parer à des imprévus. Une des choses que nous avons vues dans le cadre du groupe de travail, nous ne proposons pas que ceci soit enlevé de chaque candidat, mais que les personnes qui ont des ressources plus limitées, les organisations à but non lucratif, on pourrait affecter un tiers de ces frais au risque potentiel. Dans le cas de ces candidats, il s'agirait d'un montant assez élevé. Le deuxième point que nous avons examiné, et qui est le numéro 6 à l'écran, concerne les frais fixes et variables, qui sont expliqués d'un montant, qui sont décrits d'un montant de 100 000 dollars, mais en principe, il s'agit de 99 000 dollars. Et là, on nous dit, dans l'explication du coût, du calcul des coûts, qu'au cours du tour précédent de candidature, le coût des 10 candidatures reçues en 2004, le coût de traitement s'élevait à ce moment-là à 1,8 million de dollars. Ces candidatures, si je me souviens bien, j'ai oublié si la cotisation, les frais de candidature étaient 45 000 ou 50 000, je ne me souviens pas bien. Lorsque nous avons considéré que de ces 10 candidatures, au moins 2 ont été rejetées directement et éliminées, donc n'ont pas produit d'autres coûts dans le cadre des discussions de poursuites judiciaires, etc. Et au moins une qui était d'autres postes avait été directement octroyée. C'était la poste de l'Union européenne. Il n'y avait pas grand-chose à discuter pour les autres TLD. La seule explication que nous pouvons donner, c'est pourquoi nous avons eu un coût d'1,8 million de dollars et que les litiges en cours de DOT triple X, la candidature de DOT triple X, que, comme vous savez tous, est très longue, une procédure très longue, et nous ne savons pas si ceci est inclus dans le calcul de ce coût, mais j'ai pensé qu'il fallait le mentionner parce qu'il semble que ceci faisait partie de ce que a coûté à l'ICANN, et que c'est pour cela que nous avons eu donc ce calcul pour le premier tour. Donc en fait, nous pensons, certains d'entre nous estiment, il n'y a pas un consensus unanime, certains d'entre nous pensent que ce montant de 99 000 ou de 100 000 dollars peut également être un peu élevé. Par exemple, vous avez une candidature pour DOT Eskimo, une candidature simple, communautaire, qui n'a pas beaucoup d'opposition ou d'objection jusqu'à arriver donc à l'octroi final. Il semble encore une fois un peu élevé pour ce genre de candidat. Une fois de plus, je voudrais souligner que lorsque nous faisons ces commentaires, et nous vous disons que nous allons examiner les frais de candidature, nous ne disons pas qu'il faudrait les éliminer ou en exempter l'ensemble des candidats. Mais nous pensons d'une différenciation par rapport aux organisations, qu'il y ait donc des niveaux différents de limitation par rapport aux ressources financières et aux possibilités de versement de frais d'un montant de 185 000 dollars. Merci. Merci, Tony. Nous vous souvenons du travail, nous allons parler du travail qui a été fait dans le cadre de l'équipe 2. Et le premier qui va prendre la parole est Carlos. Alors, Carlos, vous avez le Carlos Aguirre. Merci, Evan. Je suis tentée de parler en espagnol, ce sera plus facile pour moi. Et plus facile pour vous, peut-être, mais pas plus facile pour vous. Bon, donc je vais parler en anglais, pardon. Je vais me présenter, parce que lorsque vous avez parlé de qui parler des gens, des personnes. Le groupe a décidé que je devais parler de où, de qui. Je m'appelle Carlos Aguirre, je suis un avocat et un professeur de droit et d'économie à l'Université nationale de Cordoue en Argentine. Je suis un membre de l'ALAC et un agent de liaison entre l'ALAC et le GNSO pour les nouveaux GTLD. Le groupe de travail pour les nouveaux GLD du comité consultatif. Le groupe a décidé que c'était mon tour de parler brièvement de qui reçoit le soutien. Avant ceci, je voudrais faire un commentaire. Commenter les motivations que j'avais pour travailler, pour décider de travailler, de faire part de ce groupe de travail. Nous vivons dans un monde où les différences peuvent être senties dans notre peau. Nous pouvons voir comment les gens autour du monde, pas de par le monde, ont diverses possibilités, diverses économies, divers moyens d'atteindre les objectifs, différentes langues. Et nous avons bien sûr des différences presque dans tout. Et au moins, dans le sens de la résolution du conseil d'administration, mon idée était que nous avions besoin de réduire l'impact de ces différences afin de pouvoir faire de ce monde un monde moins différent. Parce que comme quelqu'un a dit hier, Internet est à propos des gens, des personnes. Et les personnes, les gens, sont ceux qui m'intéressent. Toutes les personnes, tout le monde. Non seulement ceux qui ont un pouvoir économique. Je ne sais pas si le résultat de ce groupe de travail est le meilleur résultat possible, mais notre intention était, en tout cas, d'en faire un très bon résultat. Il est clair que les résultats peuvent toujours être améliorés. Et pour cela, et après cette première étape, nous nous attendons à des commentaires de la part de la communauté. Parce que ceci sera d'un grand soutien, d'une grande aide pour nous orienter et nous guider pour la conclusion de notre travail. Nous travaillons très énormément pendant 2 mois et il n'a pas été facile d'arriver à un document final qui a été débattu par tous les membres dans des téléconférences hebdomadaires et quelquefois en réunissant tous les participants du groupe de travail. Et quelquefois des discussions personnelles avec d'autres membres, en tête à tête, avec d'autres membres, pour définir un concept ou des objectifs. Environ 400 mails, 400 courriels ont été envoyés en même temps à la liste des membres du groupe de travail. Tout ceci vous donne une idée de la manière selon laquelle notre travail s'est développé. Avant de mentionner qui a été la personne, le « who », l'identifier, il y a un autre moyen de réduire les différences. Et ceci se fait par le fait de donner assez de communication concernant ce processus. Faire savoir, donc, nécessaire. Transmettre à toutes les personnes et les parties intéressées de par le monde, leur donner la possibilité, leur transmettre, leur communiquer ce que nous faisons et donner la possibilité à tous de recevoir le soutien. Je vais passer directement qui est la personne qui mérite le soutien ou l'assistance de notre part. Une fois de plus, nous sollicitons le retour d'informations et les commentaires de la communauté. Alors, qui recevrait le soutien? La proposition est, au départ, dans le premier tour, uniquement les communautés ethniques et linguistiques. Les communautés ethniques et linguistiques, par exemple, la maison des communautés, les parlants de tamil, les parlants de guarani et leur communauté. Pour nous, lorsque nous parlons de ceci, pour ce groupe donc, cette division est claire et non controversée, où tout le groupe est d'accord que l'ICANN doit donner les moyens à ces communautés d'avoir leur communauté sur le web. Pour nous, nous recommandons de commencer par ces groupes, par ces communautés. Une autre proposition de soutien à des groupes, par exemple des ONG, des organisations de la société civile, mais à l'avenir, à un certain moment à l'avenir. Parce que l'idée de qui constitue une communauté dans cet espace est moins claire. Et le texte et le moyen de voir qui vraiment mériterait un support serait un peu plus difficile. Ce groupe est un peu plus problématique parce que si au départ ceci semblerait clair, lorsque vous commencez à analyser pour avoir des définitions plus précises, pour avoir des concepts plus précis dans chaque cas, pour beaucoup de raisons, ces groupes-là, donc les ONG, etc., ont besoin de plus de tests selon nos critères. Toutefois, le nombre de candidats pourrait être très important. Ainsi, la préférence pourrait être donnée à des candidats géographiquement situés dans un marché marginal, dans les marchés en émergence et les pays en développement. Et les langages dont la présence sur le web est limitée. Ainsi, nous pensons que le document est très clair sur ces deux points. Il me paraît évident qu'il n'est pas nécessaire de clarifier plus que cela. Mais si vous avez besoin de plus de clarification, nous sommes à votre disposition. Pour le moment, et après beaucoup de réflexions, nous avons décidé d'inclure dans le document quelques candidats qui ne sont pas admissibles, en fait, au soutien. Par exemple, nous nous recommandons de ne pas accepter en ce moment des candidats qui n'ont pas besoin du soutien et qui ont un financement considérable. C'est clair, bien sûr, c'est clair. Des candidats dont les marques, qui sont des groupes qui devraient être des entreprises qui se soutiennent elles-mêmes, qui puissent donc parer à leurs propres besoins. Ceci est clair, des organisations qui sont purement gouvernementales ou para-étatiques, parce que nous pensons que ces organisations gouvernementales ou para-étatiques ont la possibilité d'avoir accès à des financements, aux financements requis. Donc d'obtenir l'argent qui est requis. Enfin, les candidats dont le modèle d'entreprise ne démontre pas une durabilité, sustainability, un développement durable, une durabilité. Et enfin, la dernière catégorie, le dernier classement a été fait pour défendre les intérêts des utilisateurs. Si les candidats qui, dans le premier tour, 1, 2, 3 ans, qu'est-ce qui se passe si les applicants disparaissent après 1, 2, 3 ans ou s'ils sont endettés dans 1, 2, 3 ans, qu'est-ce qui se passe avec le nouvel utilisateur de ce GTLD? Ce sera très difficile pour eux. Donc il faut que le modèle d'entreprise soit durable. C'est fini pour moi et maintenant c'est l'intervenant prochain. Je voudrais rappeler à l'intervenant de ne parler que 3 à 4 minutes pour que nous puissions profiter et maximiser donc le temps qui sera à la disposition de l'audience, du public. Merci, Evan.
Merci d'avoir invité d'excellents panélistes et d'excellents participants. Comme je l'ai dit, nous avons énormément travaillé, beaucoup d'efforts pour... Comme Carlos l'a dit, donc nous, dans notre effort de soutenir de nouveaux candidats, j'annonce l'information d'un nouveau groupe de soutien pour soutenir l'équipe américaine de football qui doit jouer à 4 heures. Alors n'hésitez pas à venir me trouver après l'exposé. Je ne vais pas passer en revue toute la présentation, surtout parce que j'ai plusieurs différents éléments dont je suis responsable. Donc, dans ma présentation que j'espère voir durer 4 minutes, je vais simplement mettre en lumière les points les plus importants et peut-être certains des points qui semblent moins spontanés, mais qui sont ressortis lors de nos conversations. Alors, nous avons parlé évidemment du tarif, et lors de nos conversations, il en est ressorti que bon nombre de gens d'Amérique latine, d'Afrique, en particulier des pays francophones, il a été expliqué à quel point c'est difficile, était difficile à comprendre lorsque l'on ne parle pas anglais. Et donc, l'un des domaines que l'on recommande fortement pour le soutien, c'est d'un point de vue purement logistique, la traduction des documents, en particulier documents juridiques et la rédaction des dossiers. Pour nous, il est clair que c'est très difficile dans les pays émergents de trouver par exemple des avocats qui puissent vous aider, qui parlent anglais et français et qui connaissent en plus la technologie. Ce sont des individus très difficiles à trouver et ils coûtent très cher. Donc nous avons décidé qu'un candidat des pays émergents est souvent doublement ou triplement désavantagé dès le départ. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes chanceux d'être proches de ces ressources. Ensuite, Carlos l'a effectivement expliqué, c'est l'effort de faire savoir et de conscientisation. Nous espérons vraiment que ICANN pourra en faire davantage pour atteindre, affecter le public. Parce que nous savons qu'il existe des tas de groupes là qui sont intéressés par notre travail, mais ne le savent pas vraiment, ne savent pas ce que nous faisons aujourd'hui. En ce qui concerne le soutien technique, bon nombre d'éléments ont été spécifiés. L'infrastructure, par exemple, dans le cadre d'IV6, l'intégration verticale 6, des aides technologiques dont nous pourrons parler un peu plus tard, et la réduction des coûts et des coûts d'enregistrement, etc. Essayez de rassembler les différents acteurs pour réduire les coûts. Enfin, on a cité et discuté au cours de cette semaine, lors du groupe de lundi sur les nouveaux TTLD, la possibilité de donner des réductions afin de motiver des scripts qui sont peu présents sur Internet. Comme Sophie a expliqué, certaines langues, par exemple l'Éthiopie, etc. Alors, en ce qui concerne les recommandations que Avri a citées, l'autofinanciation a permis un nombre de 50% et donc permettre aux gens d'être responsables d'eux-mêmes. En même temps, nous ne voulons pas que le soutien soit indéfini. Il y a deux raisons pour ceci. D'une part, nous voulons nous assurer que les gens s'auto-développent et s'émancipent, mais en plus parce que nous n'avons qu'un une quantité limitée de ressources, qu'il s'agisse de personnel ou de finances. La transparence, évidemment, est tout à fait logique. En ce qui concerne la fiche de candidature qui ne doit pas être limitée, eh bien, c'est là que la langue pose un gros problème. Mais Que signifie le terme ONG selon les différents pays? Parce que selon les différentes réalités, ça signifie différentes définitions. Il existe également des candidats qui posent leur candidature au nom d'une communauté, mais ensuite ils s'aperçoivent qu'ils viennent finalement d'un secteur assez commercial. Donc ils commencent par des ONG et finissent par devenir des entreprises très viables, très commerciales. Donc, il ne faut pas que la candidature se limite aux ONG. Il faut que le gouvernement ne finance pas en grande partie le projet, sinon on risque de financer un projet voulu par le gouvernement. Ensuite, il y a l'idée de remboursement, c'est-à-dire que si le soutien est accordé à une organisation et que cette organisation fleurit, s'épanouit, eh bien, elle doit à son tour aider d'autres organisations qui ont besoin d'aide. Voilà, je me suis tenue à 4 ou 5 minutes. Très bien, notre dernier orateur, Alex Pecora. Merci beaucoup. Lorsque vous avez terminé par les avantages d'en dire le moins possible, eh bien... J'étais d'accord avec vous, mais je vais suivre une méthode différente. Alors, l'exemple de l'Afrique, lorsque nous parlons du côté des politiques et ce que le conseil d'ICANN veut réaliser et ce que nous voulons faire pour les pays en développement, eh bien, quelle est la situation sur le terrain? Au début, j'avais bien dit que tout... Les noms montrent bien l'effort du groupe de travail, mais derrière ces mots, il y a de véritables noms, de véritables personnes et de véritables organisations qui existent. Et donc, venant d'une association, moi, je suis fière de faire partie d'ICANN. Et l'Internet, en premier lieu, doit appartenir à tout le monde. Donc, ceux qui construisent Internet doivent... le vouloir pour tous, c'est-à-dire que pour améliorer la vie de chacun. Et donc dans les pays en développement, et en particulier les marchés émergents, la meilleure solution est d'essayer de les faire participer davantage, de les impliquer et de leur fournir un meilleur accès à Internet afin qu'ils puissent faire bon usage de l'Internet, mais ceci comme ils le veulent. C'est pourquoi nous souhaitions faire partie du Conseil. Nous remercions le Conseil de nous avoir apporté. Et bien sûr, toutes les participations sont les bienvenues. Et donc, dans mon exemple, je voulais dire qu'il y avait énormément d'évangélisme en Afrique et également énormément de régions. Donc, pour moi, c'est... pratique de participer à des réunions et des forums à travers toute l'Afrique parce que je n'ai pas le temps de me rendre dans toutes les régions. Et lorsque l'un d'entre nous nous explique de quoi il s'agit, nous n'avons pas forcément besoin de la traduction coûteuse d'un document et les gens comprennent mieux. Donc le GTLD est de plus en plus compréhensible parce que nous pouvons expliquer le système dans un langage simple. Donc, le type d'organisation que je souhaiterais citer, comme je le disais auparavant, c'est une organisation lancée à Genève en février 2003. Elle concerne tout le continent africain pour le développement des logiciels informatiques. Nous essayons de mieux les informer et, bien sûr, nous avons les mêmes attentes. Nous ne leur avons pas promis qu'ils bénéficieraient du soutien, mais bien sûr, ils seraient intéressés obtenir des commentaires de la part de la communauté. Ils sont des professionnels dans ce domaine. Le deuxième groupe est un groupe de faire savoir. Et j'appellerai les gens ici présents, comme Andrew vient de le mentionner, Sophia par exemple, qui vient d'Éthiopie. Ce sont des gens qui parlent anglais et qui ne sont pas arabes. Comme vous le savez, l'Afrique est l'un des continents qui a le plus grand nombre d'arabophones. Et nous sommes bien satisfaits du script arabe, mais il y a également d'autres personnes en Afrique qui ne l'utilisent pas. Et donc un bon exemple, c'est le MMR. Et donc nous devons essayer d'atteindre les personnes des autres communautés. Et nous parvenons à joindre différentes parties prenantes. C'est l'une des demandes de faire savoir, c'est-à-dire développer les systèmes dans des langues qui s'appliquent à toutes les régions et pas uniquement en Afrique. Donc, aussi, parmi nos initiatives, je suis heureux de constater que grâce au gouvernement kényan pour la protection des consommateurs, nous avons reçu un soutien de la part du gouvernement. C'est un soutien qui s'étend à 5 pays africains. Et donc, le gouvernement sert aussi de régulateur afin de protéger les consommateurs. Et donc, des initiatives de ce type, bien sûr, sont les bienvenues dans les régions d'Afrique parce que c'est toujours bien, bien sûr, de bénéficier du soutien des gouvernements. Et sans quoi il serait difficile pour ces groupes d'atteindre ICANN. Donc nous sommes heureux de voir que le ministère sur l'information et la communication soutient cette initiative de protection des consommateurs. Et hier il y a eu une initiative à Fralo. Je suis heureuse d'y avoir participé. Et enfin, les liens avec les entreprises. Eh bien, dans l'audience, il se trouve deux sponsors de cette réunion. L'un d'entre eux, Dot Africa, le registre Dot Africa qui est géré par Dot Connect Africa. Et Sophia est associée à cet événement. Il nous explique comment ils peuvent soutenir les autres organisations non lucratives. Nous avons également .org. Je pense que Cathy est également dans la salle. Je l'ai invitée. Et nous essayons de créer des liens avec des entreprises afin que les candidats qui viennent nous trouver peuvent déjà obtenir un soutien. Évidemment, nous ne pouvons pas. Nous essayons de nous baser sur tous les registres pour qu'ils nous apportent leur soutien. Nous sommes donc très heureux des réponses positives que nous obtenons déjà. Alex, je suis désolée, mais nous sommes déjà très très en retard. J'avais demandé de vous en tenir à 3 minutes. Ce n'est pas un discours. Donc je vais vous demander de conclure. Oui, très bien, je conclurai. Je voudrais simplement remercier l'équipe WAC, le personnel et tous ceux qui ont organisé cette réunion. J'ai hâte de travailler avec vous de nouveau bientôt.
Merci. Comme je l'ai dit, il s'agissait donc, nous avions pensé ceci comme un atelier et nous sommes ici pour vous écouter. Les micros sont ouverts. Et Carla a déjà quelques commentaires de la participation en ligne. Allez-y. Et nous allons répondre aux questions autant que de notre mieux. La première question vient de Danny Younger. Je connais un opérateur de registre qui traite un montant limité d'enregistrement et qui ne facture aucun frais pour les enregistrements et qui utilise pas de service de bureau d'enregistrement. Le contrat de l'organisation va être remis en cause l'année prochaine et nous savons tous que le prospectus, la perspective de concurrence inspire souvent de nouvelles solutions innovatives. Est-ce que cet opérateur de registre, le Yanak, pourrait fournir à un tel registre des services par des IGO? Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il ne pourrait pas y avoir de fourniture de services de registre équivalente pour les ONG? Ça, c'est le « who », donc. La question Il faut que Carlos, Andrew ou Alex répondent à ceci. Est-ce que l'un d'entre vous... je n'ai pas compris la question, dit-il. Je pense, comme je la lis, il y a une organisation qui essaye de faire quelque chose. Le contrat va être renouvelé. Ils vont être confrontés à une certaine concurrence. Est-ce qu'ils sont protégés? L'idée est de fournir un soutien aux personnes qui veulent avoir accès au web et qui n'ont pas actuellement. Toute personne qui serait intéressée par les aider avec ce soutien, je ne vois pas aucune raison pour qu'ils ne puissent pas le faire. Nous avons invité Katim au panel et donc c'est la personne qui est responsable probablement de l'existence de notre groupe de travail. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous et merci infiniment à Evan pour votre gentille idée et votre présentation. Je ne pense pas qu'il est précis de dire que c'est moi le responsable de la résolution qui a résulté en l'établissement de ce groupe de travail. Je crois que tout ce que l'ICANN fait dans les efforts conjoints nous implique à tous. C'est pour cette raison que j'ai promis à Avri et à tous que j'allais faire de mon mieux pour vous rejoindre ici, même brièvement. Nous avons pour le moment un atelier du Conseil. J'ai dû m'éloigner pour quelques moments pour venir vous rejoindre ici et exprimer ma gratitude à toutes ces personnes qui ont fait un excellent travail, à toutes les personnes du groupe de travail conjoint. Je disais au groupe africain hier, et ceci doit être vu également dans un autre contexte. Vous ne faites pas ceci seulement pour votre avantage ou votre bénéfice et le bénéfice des pays ou du monde en développement, mais également pour le bénéfice de l'ICANN elle-même. Vous vous souvenez de la résolution du Conseil que nous avons passée, la résolution numéro 20 à Nairobi. Elle mentionnait spécifiquement que ceci, dans la mesure où vous aidez l'ICANN à pousser et à promouvoir ses objectifs et les objectifs de la résolution. Vous êtes en train d'aider à la promotion de l'ICANN. Je suis venue pour vous remercier, encore une fois pour le travail extraordinaire que vous êtes en train de faire et également pour vous encourager à nous faire parvenir autant d'informations que possible. Personne d'entre nous n'est nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons pas évidemment deviner, nous ne sommes pas aussi intelligents que ça et nous avons besoin des contributions et des approches de tout le monde pour que nous puissions entretenir le caractère multipartie prenante de l'ICANN. Nous vous remercions encore une fois pour le travail que vous faites. Je suis désolée de m'être joint à vous si tard et je suis désolée d'avoir à repartir immédiatement pour rejoindre les travaux de la réunion du Conseil dans la salle d'à côté. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos délibérations.
Très bien, nous avons énormément de questions et très peu de temps. Donc ce que je propose de faire, c'est on alterne les micros. Pas de déclaration, s'il vous plaît. S'il ne s'agit pas de questions, eh bien, je vous invite à vous rasseoir. Nous essayons de garder les réponses aussi courtes que possible. Merci. J'espère que c'est le bon endroit pour poser les deux questions. Premièrement, j'aimerais savoir ce qui va se passer à long terme en question de concurrence linguistique. Il y a le domaine burnout.com. S'il se traduit en swahili.africa, tous les RTLD devront être traduits par des moteurs de recherche. Donc en 3 ans, qui va gagner la compétition, le concours entre la classification des pages? Qui va être en première page? Par exemple, mon nom Farzi pour caviar est translaté. pardon de vous interrompre, mais ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons ici. Il s'agit de réduction de coûts, mais je pensais qu'il s'agissait d'IDN. Non, pas du tout, excusez-moi. Ok, une autre discussion alors. Steve Del Biaco pour la coalition NetChoice. Carlos, vous avez dit que vous concentriez sur les gens, mais en fait, vous parlez de ces candidats comme de gens. Et en fait, 56% de cette planète n'utilise pas le script latin comme leur langue maternelle. Donc, nous ne sommes jamais parvenus à faire un nom de domaine, un URL ou une adresse email dans leur langue. Donc, combien de temps ça va prendre pour pouvoir servir ces gens-là? Parce que qui s'occupe de ces gens-là? Il est nécessaire peut-être de motiver les entreprises à lancer leur propre GTLD dans des versions des langues des IDN, ou alors on ne servira jamais ces personnes. Ils ne vont pas dépenser 2 à 400 000 dollars pour aider ces gens-là. Et pourtant, ce sont les gens qui en ont le plus besoin. Eh bien, il me semble que ce résumé à l'écran était incorrect selon nos résultats portant sur les gens que nous décidions soutenir. Évidemment, il s'agit des communautés ethniques et linguistiques et qu'il serait facile de créer ce critère pour les soutenir. Donc, il y a eu une discussion assez animée sur la limitation des considérations à ce groupe-là, mais nous ne le ferons pas, c'est simplement le groupe le plus évident. Nous essaierons de fournir toutes les ressources possibles, de quelque sorte que ce soit, et afin de servir les candidats et leur communauté. Une réponse supplémentaire ? Oui, également dans le troisième type de soutien, nous avons parlé de une construction pour les langues non servies et des réductions pour une présence limitée sur l'Internet, etc. Ceci leur permettrait de construire des sites dans des langues plus rares. Et il est notre priorité, bien sûr, est de servir ceux qui ne s'expriment pas dans une langue latine. La question est de Marie. Elle se rapproche de ce que Hélène vient de dire. Pour être clair, la supposition est que le soutien est uniquement basé sur la communauté, sur les candidats basés sur la communauté, et les questions se basent sur le transparent qui dit que le premier tour s'adresse uniquement aux communautés linguistiques et ethniques. C'est simplement la façon dont le transparent a été rédigé. Donc la deuxième question de Marie est: dans quelle mesure les recommandations du premier tour sont supposées être des candidats basés sur les communautés? Car je me demande si les groupes considérés ont considéré les besoins de résolution des disputes qui sont dirigés aux candidats possibles. Oui, pour répondre à l'autre question, donc les candidats vont être soutenus, mais la seule chose que nous essayons de faire, c'est de promouvoir les gens qui n'ont aucune présence. Et donc nous avons commencé à étudier les processus de résolution de conflits, etc. Mais nous n'avons eu aucune formation. Nous venons d'en discuter ce matin et donc nous n'avons pas encore atteint cette phase où nous acceptons des candidatures. Ce que nous essayons de faire, c'est réduire les barrières dans notre charte. Donc c'est très simple. Nous n'avons pas encore prévu ces services et les services juridiques devront être donnés à des spécialistes.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Oui, Carlos. Je voudrais dire 2 ou 3 mots, pas plus. L'idée est que la discussion est ouverte. Il s'agit de la première étape. Nous avons besoin des contributions de la communauté. Tous, vous tous, vous posez, vous demandez maintenant. Il est très important pour nous de... Mais il faut que vous compreniez que notre travail vient de commencer. Les définitions... Excusez-moi. Les concepts ou les définitions ne sont pas finalisés, ne sont pas finaux. Nous essayons d'évaluer vos commentaires, vos contributions, pour que ceci alimente de nouvelles conclusions après la discussion. Je m'appelle Jack Gomez. J'ai une question concernant le bundling, l'idée du bundling, de l'empaquetage, peut-être concernant les communautés qui ne sont pas bien desservies. Les nouveaux candidats, les candidats au nouveau GTLD et même les registres qui existent et qui veulent offrir de nouveaux GTLD, donc le bundling, l'offre par lot. Il serait très peu probable que ceci puisse justifier des offres de leur TLD IDN et payer 185 000 $ de frais, etc., et qu'ils offrent ceci donc par lot à leur communauté défavorisée. Est-ce qu'il y a une intention ou bien une réflexion pour inclure ce genre d'occasion d'offres par lot dans vos recommandations? J'étais contre ça. J'ai publié un post à Nairobi lié à ceci. Et l'objectif était d'avoir... plus de contributions ou de réponses de ces langues. En fait, si vous achetez un paquet de 6 bières, vous devez avoir une petite réduction par rapport à l'achat à chaque bière toute seule. C'était ça, en fait, l'idée. Donc, va évaluer la présence d'une langue pour l'amharic, par exemple, pour le tamil, qui ont des scripts différents. Pourquoi nous n'essayerons pas de donner des motivations aux personnes qui peuvent rendre ceci possible? Nous avons déjà parlé de la possibilité de réduction des coûts. Et ceci avait un sens sur le fondement de ce que nous avons compris et sur l'utilisation du script. Est-ce que l'un des panélistes voudrait répondre? Alex? Non, il n'est pas nécessaire de passer plus de temps. Je m'appelle Bob Hutchison de Dynamic Venture. Nous sommes spécialisés dans l'ID, dans l'assistance des entrepreneurs à commencer à démarrer de nouvelles entreprises. J'aime beaucoup l'idée de bundling, donc de la vente par lot, de l'offre par lot. Je ne sais pas si vous avez vu les moyens de microcapitaux, de financement par microcapitaux. Du financement donc de démarrage d'entreprise. Je suis curieux si vous avez examiné ceci. Oui, nous avons écrit des lettres au registre dans ce sens, demandant pour éviter tout doute. Nous avons donc, comme je le dis partout, nous avons fait une lettre générique que nous avons envoyée à divers destinataires, posant la question de quelle manière ils penseraient qu'ils pourraient assister ce programme à démarrer. Peut-être que si vous aviez un autre moyen de financement qui pourrait être inclus, est-ce que quelqu'un d'autre de la table voudrait s'exprimer? Cette lettre est publiée en ligne dans les annonces, dans la page web des annonces de l'ICANN. Elle comprend donc le communiqué du groupe de travail, une copie de cette lettre. Cette lettre s'adresse à toute personne, à toute entité qui voudrait soutenir ses candidats de manière financière. Il y a une partie, un élément de développement économique également, et nous voulons en fait nous adresser également aux fondations, aux banquiers, qui sait.
Très bien. La question suivante en ligne. Bonjour, c'est Carla, de la part de notre participant à distance. Nous en avons environ 20 pour le moment. Cette question vient de John McCormack. Nous, les CCTDs locaux, faisons partie des processus locaux de proposition de GTLD. Et donc l'impact d'une communauté de langue qui dépend des CCTLD dépend du GTLD où la plupart de la langue de la communauté est basée. Comme si j'ai bien compris, donc c'est un CCTLD dans un pays où se trouve un candidat pour un groupe, donc l'impact d'un potentiel que les GTLD linguistiques des CC qui existent déjà dans ce pays pourraient en fait attirer des gens. Tony ? Eh bien, dans notre expérience, par rapport au candidat, nous allons être un candidat. Et cette discussion a déjà été menée dans le monde du CTLD. Donc, en général, les domaines de noms internationaux ou les ASCII n'ont jamais été considérés comme des ennemis. Donc, nous ne pensons pas qu'il y ait un impact négatif sur les CCTLD. Au contraire, ceci devrait permettre d'encore étendre l'utilisation de l'Internet. Je pense que si dans la communauté se limite à un État, eh bien c'est très rare ce que l'on trouve en Afrique ou aux États-Unis. Ce sont des communautés croissantes qui s'étendent sur plusieurs pays. Et donc, nous voulons offrir aux CC qui veulent s'associer et avoir leur propre présence. Alex ? Brièvement. Les études montrent également que plus de 60% des gens cherchent un contenu qui les affecte, qui est local. Donc lorsque nous amenons cette communauté ensemble, nous améliorons l'utilisation de l'Internet. Donc plutôt que de créer une concurrence, nous la complétons. Et peut-être que 10 000 enregistrements ont déjà été faits. Moi, je considère ça comme un compliment. Mais aucune étude spécifique n'a été menée pour démontrer nos propositions. Bonjour. Je suis... Je travaille à Dotosia Registry. Je parle en mon nom. Premièrement, j'aimerais savoir quel est l'état de la confiance dans le groupe en ce moment. Par exemple, pour les six prochains mois, pour comprendre, par exemple, la mission de la réduction des coûts pour les candidats, parce qu'il y a encore deux coûts, par exemple, les coûts supplémentaires, les coûts d'enregistrement ou les coûts d'évaluation. C'est-à-dire il y a encore un besoin de 3 ans pour un acompte financier. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines exemptions des marques pour les pays en développement qui ne sont n'ont pas forcément droit à recevoir ces soutiens. Donc j'aimerais également me placer dans une perspective différente, et donc les groupes peuvent peut-être essayer de définir comment aider les propriétaires de la marque dans les pays en développement tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil, afin de garantir qu'ils soient mieux au courant du programme, afin que leur marque dans les nouveaux GTLD puisse être mieux impliquée et qu'ils soient conscients de ce qui se passe dans le domaine des marques déposées, etc. Je pense que nous devons passer à un autre groupe, mais effectivement, vous avez fait une remarque très pertinente. Et en fait, ce que vous nous demandez sur la confiance, c'est si nous avons confiance, si les gens vont prendre nos recommandations en compte. Eh bien, oui, nous avons de l'espoir, mais ça dépend encore du vote. Ça dépend, ça dépendra du vote. Oui, je sais qu'il n'y a plus que 7 minutes avant la fin de cette session. Donc, nous terminerons avec les personnes ici présentes au micro. Allez-y. Bonjour, je suis Nikwenor. Je viens de Ghana.com. Je suis un bureau d'enregistrement, mais je parle en mon propre nom. J'aimerais clairement exprimer que nous faisons ce que nous faisons pour un meilleur Internet. Et j'aimerais demander de façon publique si vous avez un délai particulier dans la définition des programmes de soutien. Et en particulier, Alex, vous avez mentionné un point Africa, un opérateur point Africa. Est-ce qu'il existe? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit au début, et je pense que c'est une remarque très pertinente, chaque exemple que je donne avait pour but de démontrer la réalité du faire savoir. Au Ghana, les registres sont bienvenus à participer. Et en fait, la mention de tout... De ces organisations et des candidatures était en fait une attente, une gestion stratégique des candidats afin qu'ils ne nous fournissent pas des informations et pensent que par la suite ICANN s'est engagé à les aider. Les gens qui sont invités à participer pour les buts du groupe. En particulier mon équipe de travail, et je dois dire ce que j'ai fait dans les... J'aurais aimé inclure aussi d'autres groupes, et donc lors du prochain tour nous établirons des contacts que nous avons dans un transparent.
Je m'appelle Nari Jaitwani, je suis le président de Cyber Café en Inde. Nous sommes un écosystème de 180 000 cybercafés, de 70 FAI et de 49 participants du gouvernement et 70 millions d'internautes. J'ai une question. Je suis sûre que le coût des frais de candidature est une pensée donc qui appartient à l'approche de l'ICANN. Lorsque nous parlons de la réduction de coûts, de quel coût nous sommes-nous en train de parler? Dijani, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Bon. Il demande quel coût nous avons à nous voulons réduire. Quel type de réduction de coûts nous essayons de faire? Eh bien, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, c'est les coûts de développement du programme des nouveaux GTLD que le groupe de travail pense qu'il est possible d'enlever, de dispenser les candidats de ce coût-là, et qui n'est pas négligeable, qui s'élève à 65 000.
Ok, and Tony, go ahead.
Yes. Oui, je pense que votre question était une très bonne question. Je pense également que nous devrions souligner que lorsque nous discutons une réduction du coût de candidature, des frais de candidature, nous ne pensons pas que ceci devrait devenir une charge supplémentaire sur les autres candidats, bien sûr. Mais que puisque un tiers des frais de candidature sont réservés pour les éventualités ou les imprévus, dans le cas de certaines candidatures, comme celles que nous discutons, dont nous discutons et qui ne vont pas être très très nombreuses, nous pensons, ceci pourrait être reconsidéré. En d'autres termes, une partie importante des frais de candidature ne sont pas des coûts réels, mais des prévisions pour des coûts futurs. Donc, je pense que c'est... J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Yes, but... Oui, mais j'ai un commentaire à faire. C'est les subventions. Il n'y a pas de freelancers. Est-ce que le modèle d'entreprise peut être considéré sur la base d'un partage de recettes? C'est ça le défi. Dans ces pays, il y a beaucoup de partage de revenus. Par exemple, si une organisation reçoit 100 dollars, 10% est reçu, perçu par, par exemple, l'ICANN, ou celui qui cède la licence. Est-ce que vous avez considéré ne pas apporter une subvention croisée ou un sentiment de réduction du coût ou du partage des recettes? Alex, Andrew, il y a deux points que je pourrais souligner. Un des points est lié à l'Inde spécifiquement, parce que vous avez tellement de langues et tellement de scripts. Et dans votre marché, une des choses que nous essayons d'obtenir était le sens de l'équité. C'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas comme langue maternelle l'anglais, ils ont plus d'obstacles, n'est-ce pas? Donc quand vous parlez, que vous l'appeliez subvention croisée ou autre chose, c'est un mouvement de financement, de fonds. L'objectif est de créer un meilleur niveau d'équité, de justice. Vous pouvez lire ma réponse à l'écran, parce que je vais répondre en espagnol, pour être plus rapide. Nous autres, dans le groupe de travail, nous avons parlé des possibilités de nous assurer, de garantir que les organisations qui étaient candidates et qui avaient besoin de soutien et qui recevraient le soutien, après, pendant le développement du GTLD, que ces entreprises-là, ces organisations aient des bénéfices. Donc, nous avons considéré les possibilités des organisations, que ces organisations redonnent une partie des bénéfices qu'elles ont obtenus afin de soutenir d'autres candidats, d'autres personnes. Donc, ceci, nous revenons, c'était l'idée qu'il y ait un remboursement d'une partie des bénéfices.
Donc, essayer de considérer différentes préparations qui vraiment ne donnera pas l'impression à quelqu'un qu'il bénéficie d'un différent modèle d'entreprise. Donc vous avez parlé de l'Inde. Il y a quelques années, la plus grande entreprise pensait que le shampoing ne pourrait pas être vendu en Inde. Mais maintenant, en Inde, tout le monde se lave les cheveux avec du shampoing de BNG. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème. Il s'agit de réduire les coûts et si l'on peut considérer ce problème particulier, je suis sûre que le produit sera accepté bien plus rapidement. Merci. Peut-être une dernière question avant la clôture. J'aimerais reconnaître deux participants, l'un d'entre eux, Rafik Damak, qui a la gentillesse de faire partie ici de la liaison entre GNSO et le groupe de travail. Et j'aimerais également attendre sur les recommandations très claires émises par Avry et les réunions combinées afro-africaines. J'ai fait partie de la réunion et des recommandations très spécifiques ont été émises. Donc, celui-ci apparaîtra sur le site internet. Et j'aimerais les remercier d'avoir fait ce travail. Rafik va donc conclure. Premièrement, pour résumer ce qui s'est passé lors de cet atelier, eh bien, il est toujours bon de rappeler que c'est un effort qui traverse toutes les différentes communautés avec une représentation de la LAC, du GNSO, mais également des CCMSO et du GAC. Également, j'aimerais vous rappeler du groupe de travail qui travaille sur une approche durable. J'insiste sur le mot sustainable, durable, afin d'amener davantage de candidats provenant des pays en développement et tenter de surmonter ces barrières. Nous avons encore besoin de la consultation publique pour le retour par rapport à ces recommandations, recommandations présentées par ces panélistes, et essayer de considérer les possibilités d'amélioration afin d'encourager tout le monde à faire preuve de bon sens et de participer. Et bien sûr, la participation au groupe de travail est encore ouverte et j'encourage donc les différentes personnes qui ont fait des commentaires à nous rejoindre et à participer à nos actions, car je pense que les idées pertinentes valent la peine d'être ajoutées et partagées. Enfin, j'aimerais remercier tous les membres du groupe de travail, mais également le personnel, qui ont fourni des efforts conséquents, étant donné le peu de temps qui nous était imparti, afin de créer ce premier résultat, c'est-à-dire cette réunion de Bruxelles, et présenter cet aperçu instantané à Bruxelles. Mais j'aimerais également remercier l'audience de cet atelier, mais pas uniquement l'audience ici présente, aussi les participants à distance qui ont posé de nombreuses questions. Et finalement, merci à Avry et Evan d'avoir partagé leur participation à cet atelier et à ce groupe de travail. Merci. Très bien. La plupart d'entre nous, d'entre vous, merci. Je sais qu'il fait chaud, il est tard. Alors vraiment, j'apprécie que vous ayez fait cet effort. J'aimerais vous rappeler que la date limite pour la consultation publique est le 15 juillet. Je vous en prie, exprimez-vous, partagez vos idées. Nous devons écouter autant que nous devons parler. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à abattre, mais les progrès sont avérés, en particulier au regard de la vitesse à laquelle nous avançons. C'est un excellent groupe d'individus et donc je vous remercie pour votre participation. Et voilà, bonne soirée.